Radio Django. Vivre à Lausanne.
Bonsoir Samuel.
Bonsoir Fabien.
Ce soir, dans la rubrique Vivre à Lausanne, placée sous le signe de la nature, puisque tu nous emmènes dans l'univers de la forêt, Samuel.
Oui, grâce à l'invitation de la Société Forestière Suisse, qui fête cette année ses 175 ans d'existence. À cette occasion, elle a organisé une rencontre entre des forestiers suisses et des peuples premiers. Le thème de ces dialogues était l'universalité de la forêt et rassemblait des personnes venues du Brésil comme de l'océan Pacifique. C'est une rencontre qui se déroulait justement dans une forêt, la forêt de Moncor, à quelques arrêts de bus de Fribourg.
Et nous avons le plaisir ce soir d'en parler avec vous, Jean Rosset. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Radio Django. Vous êtes président de la Société Suisse des Forêts. Les peuples premiers, hein, comme le disait Samuel à l'instant, que vous avez conviés, vivent au cœur de la forêt. Vous rappelez que nous aussi, les Suisses, sommes un peuple de forêt. Nous n'y vivons plus, hein, mais dites-vous, nous avons des liens spéciaux avec la dite forêt. Quel genre de rapport les Suisses du 21e siècle ont, eux, avec la forêt ? Avec leur forêt peut-être ?
Alors ils en ont énormément en fait. La forêt c'est quelque chose d'extraordinaire, ça couvre un tiers du territoire suisse et puis il y en a dans toutes les communes suisses. Donc je crois qu'il y a une étude qui dit qu'il y a 90% des Suisses qui ont la forêt à moins de ou à 10 minutes de chez eux en transport public. Donc je pense que la forêt elle est présente pour chaque Suisse, en tout cas possiblement présente pour chaque Suisse. Physiquement, mais probablement aussi un peu émotionnellement. Alors là, ça ouvre tout un chapitre.
Ah ben oui, effectivement.
Mais...
Alors, vous avez convié au dialogue, comme on le disait tout à l'heure, des gardiens de forêt. D'un côté, les forestiers suisses, et de l'autre, des représentants des peuples premiers. Il y avait notamment des Uniquin et des Souris qui venaient d'Amazonie, des Kanaks de Nouvelle-Calédonie, des Maoris de Nouvelle-Zélande. Et vous-même avez eu l'occasion de séjourner en Amazonie. Est-ce que cette rencontre a changé votre vision de la forêt et peut-être votre travail dans la forêt ici en Suisse ?
Oui, donc j'ai eu effectivement, on a été invité avec un groupe de personnes largement de la région lausannoise par un chef de tribu amazonienne à séjourner pendant une dizaine de jours dans leur village. Et ce séjour m'a profondément touché et profondément... bouleversé, effectivement. Donc je vois plus la forêt, le vivant, la nature de la même manière que celle que je voyais jusqu'à maintenant, qui était en fait imprégnée de ce que j'ai appris au Poly à Zurich et disons du monde dans lequel je travaille. Ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a complètement ouvert les idées, l'esprit, le cœur et beaucoup de choses.
Samuel, parmi ces forestiers venus de toute la Suisse, tu as demandé à Diane Moratel, inspectrice des forêts, 2e arrondissement du canton de Vaud, ce qu'elle attendait de ces échanges. On l'écoute.
Mon attente principale, je dirais que c'est d'essayer de comprendre et d'essayer de trouver des pistes de comment allier notre mode de vie, notre façon à nous de voir la forêt, de l'entretenir, de l'exploiter. Et puis une approche différente avec une autre vision de la forêt, peut-être plus émotionnelle ou plus... qui passe moins par la tête et les calculs, et de voir comment... est-ce qu'il y a des possibilités d'allier le tout dans notre monde d'Europe centrale.
Alors, le propos de Diane Moratel, tenu en début de journée, rejoint celui de Frédéric Schneider, qui est ingénieur forestier en charge du 1er arrondissement de canton de Fribourg. Je l'ai rencontré après le repas. Au menu, il y avait des sangliers qui avaient passé la matinée à rôtir au feu de bois. Et après cette matinée d'échange avec des représentants de tribus amazoniennes, je lui ai demandé ce que lui avait inspiré ces échanges.
Ça inspire quand même une certaine humilité, une différente approche de la forêt, de la voir sous un angle plus sympathique, peut-être plus coloré, plus détendu, un peu moins justement sur l'aspect plutôt économique qu'on a souvent l'habitude. Comme je dis, moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est cette approche quand même très, très directe, très vraie avec la forêt. Et ça, je pense que notre société pourrait vraiment s'inspirer de ça. Mais là, voilà, il y a encore du travail.
Alors, Jean Rosset, ces deux professionnels des forêts suisses évoquent une autre approche de la forêt, un petit peu comme vous l'avez fait tout à l'heure. Vous dites qu'on est beaucoup plus connecté qu'on ne le pense avec le monde vivant et qu'on entre dans une période où vous, forestiers, allez peut-être devenir des gardiens un peu différents, ouverts à d'autres dimensions. Quel genre de gardien les forestiers suisses pourraient-ils devenir ?
Bon, ça, l'avenir nous le dira. Mais si on va aujourd'hui dans une librairie, on voit qu'il y a énormément de livres qui parlent de la forêt, et basés très largement sur des connaissances scientifiques. Donc je crois que même notre science est arrivée maintenant à expliquer, à donner des explications qui entrent un peu dans la complexité du vivant. Et puis si on s'intéresse à ça, si on met toutes ces informations ensemble, on commence un peu à découvrir une nouvelle manière. C'est pas juste des molécules, c'est pas juste des réactions chimiques, mais ça va largement au-delà. Et je pense que les peuples premiers ont découvert ça depuis très longtemps. Et probablement que notre culture aussi avait cette connaissance. Mais voilà, depuis quelques siècles, on est parti sur un chemin très différent. Donc l'idée de cette rencontre, c'était de faire un échange, de faire un dialogue entre nous, forestiers ici et forestiers d'ailleurs. Maintenant, pour ce nouveau rôle, je pense qu'il pourrait émerger. Aujourd'hui, on est environ, en Suisse, j'ai calculé, environ 300 personnes qui s'occupent d'environ un tiers du territoire. C'est très peu de monde. Et en quelque sorte, la société, à travers les lois, à travers les finances publiques, etc., nous donne ce rôle de nous occuper de ce patrimoine. Et on le fait avec les outils du moment, qui sont largement des outils basés sur des modèles de production, etc. On doit fournir du bois, on doit fournir des prestations, on est payé pour ça, etc. Mais je dirais que l'aspect de gardien d'un patrimoine universel, de cette partie du vivant qui est restée préservée sur un tiers du territoire, celui-ci, il est en chacun d'entre nous, mais il n'est pas encore appréhendé officiellement, je dirais, par les institutions. Donc c'est peut-être ça c'est peut-être ce chemin qui va se faire ces prochaines décennies, on verra bien. C'est un peu une hypothèse pour le moment.
D'accord, alors il y a un parallèle qui en revanche était assez frappant dans les discours que tenaient à la fois les forestiers suisses et les représentants des peuples premiers, c'est l'aspect de la temporalité dans laquelle nous plonge la forêt, c'est un temps long. Comme le souligne d'ailleurs Jean-Louis Guay, inspecteur des forêts du 3e arrondissement du canton de Vaud.
Un arbre met au minimum plus de 100 ans pour se développer. Suivant ce qu'on attend, il ne sera pas intéressant avant 300 ans. Donc si on a un désir par rapport à une forêt, il faut prendre en compte ce que le passé, voir si c'est possible de modifier ça et puis d'accompagner cette modification. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre aussi des décisions unilatérales, parce que peut-être dans 40 ans, c'est plus ce qu'on veut, et nos successeurs n'auront pas, si on a fait des erreurs, n'auront pas une palette plus petite pour faire des choix futurs.
Alors Jean Rosset, dans notre société où la temporalité se mesure aux quelques millièmes de secondes nécessaires à l'envoi d'un tweet ou d'un email, dans cette société où l'immédiat prévaut, même en politique, est-ce que c'est compliqué de faire comprendre la temporalité longue de la forêt, qu'évoque Jean-Louis Guay, notamment en matière de politique publique ?
Oui et non. Je pense que, d'une part, oui, parce que chacun a cette expérience de la forêt. Donc, c'est quelque chose, justement, auquel tout le monde a été confronté. Donc, je pense que ce n'est pas compliqué de comprendre qu'un arbre met du temps à pousser, etc. Donc, je dirais, ça passe assez facilement. Après, ce qu'on voit au niveau des finances publiques, très souvent, quand il y a des économies à faire, eh bien, très souvent, on va les faire sur la forêt. Parce que, justement, comme ça peut attendre, comme on n'est pas à la semaine, au jour ou au mois, même à l'année près. Et c'est vrai, la forêt, finalement, elle n'a pas besoin de nous, elle pousse. Donc, y a un peu des deux.
Alors, un des corollaires de ce temps long, c'est la patience, évidemment, et l'humilité. Et c'est deux termes qui sont revenus assez souvent dans les échanges que j'ai eus avec vos collègues dans cette forêt à Moncor. Et Jean-Louis Guay en parle assez bien, on l'écoute.
C'est un temps très long que vous décrivez, la forêt ça apprend la patience.
Oui, 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 absolument. L'observation, l'humilité, et oui, la patience, absolument. Et oui, il y a certaines choses qu'on fait après quelques décennies, on se dit « Ah, ça va dans le bon sens, mais on n'est pas sûr que ça réussisse. » Donc voilà, c'est aussi pour ça que... On respecte les anciens en général, et puis on essaye. C'est important de savoir ce que les gens voulaient faire, quoi. Oui, la patience et le respect.
Cette journée de rencontre a aussi été l'occasion de partager des chants suisses et indiens. Une douzaine de yodelers ont montré comment on s'interpellait autrefois en Suisse, d'une montagne à l'autre.
Quelques notes de yodel qui nous font voyager dans notre beau pays. Samuel, tu as également rencontré Edouard Itowai, un artiste néo-calédonien, gardien de la mémoire du peuple Kanak. Il évoque lui aussi ce temps long et réagit à la manière dont on gère nos forêts en Suisse.
Je trouve qu'ici, vous êtes très engagé. Tandis qu'en Nouvelle-Calédonie, il faut encore se battre pour faire réveiller les consciences. Et c'est ça qui est dommage. Là-bas, on a utilisé du bois sans replanter derrière. Les sociétés ont travaillé pour couper un bois très noble, qui a toutes les qualités, c'est le houp. Mais quand on leur dit de replanter, ils disent qu'ils mettent du temps à pousser. Mais ils n'ont pas mis de temps pour gagner des sous, pour ramasser les sous.
C'est un gros problème, la déforestation en Nouvelle-Calédonie.
Oui, c'est un gros problème. Elle a commencé pour l'élevage et l'agriculture. Après, ce qui a suivi, c'est sur les abords des rivières. Ce qui fait fuir l'eau, ça veut dire qu'on appauvrit non seulement la terre, mais on va la sécher, les rivières. Les nappes phréatiques vont descendre et... Les sources vont disparaître. Si on n'a pas conscience de ça, de donner les bonnes règles de conduite pour chacun, le risque sera imminent.
Alors Jean Rosset, quand la société forestière suisse a été fondée il y a 175 ans, les forêts suisses étaient elles aussi menacées à cause de leur surexploitation, comme en Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qui les avait mises en danger à l'époque ?
Alors à l'époque, c'était avant l'industrialisation, donc avant les gros transports de charbon, avant l'électricité, et toute la force utilisée pour les premiers pas de l'industrialisation était faite avec largement de la chaleur issue du feu. Donc les machines à vapeur et des moulins, etc. Et ça, c'était une partie. L'autre partie, c'était tout ce qui était chauffage. Donc les grandes villes du pays étaient alimentées à travers avec l'eau, le bois qui était flotté sur l'eau. Et puis la troisième chose, c'était toute cette économie alpestre. Ces gens n'avaient pas d'autre chose pour survivre que leur bétail. Et puis ils mangeaient un peu tout ce qui poussait. Enfin, le peu qui poussait, qui restait après avoir été abattu pour être transporté dans les villes, était encore brouté par le bétail. Donc l'un dans l'autre, c'était une image assez catastrophique. Et il y a eu des grandes catastrophes il y a environ 200 ans. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une prise de conscience politique et que c'est dans ce contexte-là qu'est née la première loi fédérale sur les forêts, qui est aujourd'hui encore très, très restrictive et qui protège très bien nos forêts.
Alors, en fin de journée, la conseillère nationale verte Adèle Torrance, qui était également venue pour participer au débat, a raconté le lien fort qu'elle entretient avec les représentants des peuples premiers. On l'écoute avec quelques bribes de l'interprète qui traduisait les propos pour les autres Brésiliens.
Nous venons tous de cultures et de régions très différentes et éloignées, mais l'amour et la relation à la forêt, c'est la même. Et chaque fois que je rencontre des personnes comme aujourd'hui, ça me donne beaucoup de force pour continuer à me battre.
Molto mais forcé par continuer plus tard.
Et je vous remercie tous qui avez témoigné aujourd'hui de votre vécu et de votre amour pour la forêt, parce que chaque fois que je devrais me battre, je penserai à vous et ça va me donner de la force.
Et vous, Jean Rosset, est-ce que les rencontres de cette journée avec d'autres gardiens de forêt vous ont donné de la force ?
Oui, absolument. C'est très difficile à résumer en une seule phrase, mais il y avait vraiment des personnages extraordinaires. Vraiment, c'est des morceaux très importants de notre sagesse humaine qui sont peu connus, mais qui sont d'une force extraordinaire. Et je rejoins ce que dit Adèle Torrance, c'est vrai que c'est aussi ça qui me donne du courage, c'est de se rendre compte qu'il y a ailleurs aussi d'autres personnes qui s'engagent pour cette planète. Une des choses qui m'a beaucoup touché quand j'étais pendant ces jours en Amazonie, c'est que quand ils replantent des arbres, ils ne le font pas pour eux, ils le font pour toute la planète. Ils le font avec cette conscience de servir quelque chose de plus grand, de plus vaste, d'honorer cette nature. Et ça, c'est une attitude qui est absolument extraordinaire et qui donne beaucoup de courage aussi dans notre action ici.
Du courage, c'est ce qu'on retiendra de vos propos et on espère aussi que tous nos auditeurs se verront chargés de ce courage pour lutter à vos côtés. Merci beaucoup Jean Rosset d'être venu ce soir nous parler de cette journée, de cette rencontre entre forestiers suisses et peuple premier. Une bonne soirée à vous.
Merci.
Je rappelle que vous êtes président de la Société suisse des forestiers. Et pour clore cette rubrique et ce rendez-vous, on écoute un chant de Ninawa Huniquin, un chaman de l'Est brésilien. Cette chanson parle à la forêt et de la forêt.
On m'a demandé souvent ce matin, mais est-ce que vous parlez avec la forêt ? Ben là, je vais lui parler.
Ah, oui.
Ninawa Huniquin pour parler et chanter la forêt. Un sujet ce soir que nous traitions, la forêt, qui nous était proposé par Samuel. Un sujet à retrouver sur notre site www.django.fm.